L'activité agricole, dans le cadre de mes activités de recherche, elle est appréhendée sous deux angles. L'activité agricole dans les espaces ruraux comme productrice de paysages, et je m'intéresse au paysage uniquement dans sa dimension physique, c'est-à-dire comme étant constitué d'un ensemble d'entités ou d'objets géographiques bien distincts. Alors, j'aurai le temps de les rappeler tout à l'heure, mais je distingue une parcelle cultivée d'une parcelle en prairie, des haies, des réseaux de fossés, de tous ces objets qui vont constituer un paysage. Et ces paysages sont pour moi les supports de processus géomorphologiques que je vais vous rappeler dans un instant. Alors bien évidemment, le fait de considérer les paysages dans leur dimension physique ne m'empêche pas de penser ces paysages comme étant issus de production des sociétés, particulièrement agricoles, et toutes les représentations qui peuvent y être associées, puis aussi les approches interdisciplinaires nécessaires autour de ces questions-là, et j'y reviendrai dans mes propos, enfin en conclusion. Et puis, l'activité agricole est vue aussi sous un deuxième angle comme étant, eh bien, émettrice de sédiments, puisque sous nos latitudes, au sein de ces hydrosystèmes, eh bien, on a affaire à des processus érosifs qui sont d'origine naturelle, mais qui sont exacerbés par les activités anthropiques, et l'activité agricole étant la principale dans ces espaces-là. Et un cadre géographique, les hydrosystèmes du nord-ouest de la France, qui sont caractérisés par un relief modéré, en tout cas bien plus modéré que d'autres espaces en France ou ailleurs, des cours d'eau dits de faible énergie, liés notamment à cette faible de ces reliefs modérés, et des hydrosystèmes qui sont sous contrôle anthropique, enfin sous un très fort contrôle anthropique, notamment lié à l'activité agricole, comme je l'évoquais précédemment. Alors, l'organisation de cette présentation en quatre temps, je vais dans un premier temps passer un petit peu de temps pour rappeler le contexte et les objets de mes activités de recherche. Activités de recherche menées principalement durant ma thèse de doctorat entre 2011 et 2015, thèse sous la direction de Daniel Delay, professeur de géographie à l'université de Caen, Normandie. Et puis, j'ai pu continuer en faisant des cours postdoc à droite, à gauche, et puis au cours de mes activités d'enseignant temporaire aux universités de Nanterre, notamment, et de Caen. Ensuite, j'évoquerai dans un deuxième temps les apports de la géomorphologie et de l'analyse spatiale, et notamment une de mes spécialités qui est la modélisation. Apport donc de ces approches pour étudier eh bien, ces questions de recherche et approfondir ce travail. Et puis je profite dans un troisième temps de la tribune qui m'est offerte ici, face à un public d'historiens majoritairement, pour montrer, et c'est un petit peu là-dessus que je concentre mes activités de recherche, en tout cas en première année enfin les premières années d'enseignant-chercheur, on est plutôt concentré sur la pédagogie. J'ai profité de projet en situation dans le cadre des Master 2 pour travailler sur l'intérêt des sources cartographiques anciennes. C'est quelque chose que j'avais abordé un petit peu en thèse, un petit peu au cours d'un contrat postdoctoral, et je pense qu'il y a ici des collaborations futures intéressantes et pertinentes à mettre en place. Alors, je rappelle brièvement quels sont les différents facteurs de sensibilité des sols au ruissellement érosif pour bien identifier de quoi je parle. Ils sont au nombre de quatre: le climat, l'occupation du sol, les sols et la topographie. Donc, ce sont les quatre variables de contrôle des processus de ruissellement érosif. Alors, il y a bien évidemment, dans un premier temps, le climat, puisque pour qu'il y ait érosion, au ruissellement, il faut d'abord qu'il y ait formation d'un excès d'eau à la surface d'un sol. Et les paramètres qu'on va prendre en compte, ce sont les cumuls pluviométriques, mais également l'intensité de ces précipitations et la fréquence de ces précipitations. Des modestes pluies qui n'excèdent pas 4 mm par heure, globalement, tous les sols sont capables de les absorber, mais dès lors qu'on va arriver sur des intensités beaucoup plus importantes, le comportement des sols vis-à-vis de ces précipitations peut être totalement différent. Donc ça, c'est un premier facteur. C'est pas sur celui-ci que je me suis principalement que je consacre la majorité de mes activités de recherche, dans la mesure où ça, c'est des choses qui sont déjà bien connues, notamment par le BRGM, qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là. Deuxième facteur, alors je les ai hiérarchisés dans l'ordre qui m'intéressait pour aboutir à ce qui m'intéresse moi plus particulièrement, à savoir les deux autres facteurs. C'est-à-dire que là, je vous présente le facteur numéro que j'ai classé en numéro 2, qui est le sol, avec l'influence des caractéristiques pédologiques. Et puisque face à une pluie, eh bien, tous les sols n'ont pas le même comportement face à cette agressivité des pluies, hein, puisque les pluies, en tombant à la surface du sol, eh bien, vont avoir un effet érosif. Dans un premier temps, elles vont s'attaquer aux plus grosses mottes. Alors, c'est ce que j'ai essayé de représenter sur les petits graphiques que je vous propose ici. En s'attaquant aux plus grosses mottes, elles vont en fabriquer, elles vont en faire des plus petites, qui vont commencer à lisser le sol, et d'une capacité d'infiltration pour un état fragmentaire de 30 à 60 mm par heure, et bien progressivement, on va avoir un sol qui va devenir totalement imperméable, un petit peu comme du bitume. Et cette sensibilité à former une croûte sédimentaire, elle est bien évidemment variable en fonction de la nature des sols. Et ce sont les sols à substances principalement limoneuses qui sont les plus sensibles. Alors, le limon, c'est une taille granulométrique de sédiments. Sauf que, eh bien, dans les territoires qui nous intéressent, à savoir le nord-ouest de la France, eh bien, la sensibilité des sols à la battance, qui est ce phénomène que je viens d'expliquer, la sensibilité des sols à la battance, elle est extrêmement, elle est forte, voire très forte, dans tout le quart nord-ouest de la France. Donc, ce deuxième facteur que je résume très rapidement ici, c'est donc l'impact du sol dans la genèse des processus d'érosion et de ruissellement. Et puis, troisième facteur, qui est celui qui m'intéresse le plus, c'est l'influence des pratiques agricoles. Alors là aussi, il y a de nombreuses études qui ont montré les différences qu'il peut y avoir entre une surface qui va être en prairie. Qui dit prairie dit un couvert, alors je parle des prairies permanentes, dit un couvert végétal permanent qui a permis un développement racinaire pérenne qui va permettre d'infiltrer plus facilement la pluie, alors que sur des surfaces cultivées, il y a tout le temps de semis, de ramassage, enfin de récolte, etc., qui vont avoir tendance à affecter les capacités d'infiltration d'un sol. Donc, d'une part, des variabilités spatiales, c'est ce qui m'intéresse le plus, j'y reviendrai tout à l'heure, en fonction des différentes entités et comment elles sont réparties dans l'espace. Et puis, au sein de ces variabilités spatiales, donc de chacun de ces entités, de ces objets du paysage, eh bien, il y a une variabilité temporelle, puisque la sensibilité d'un sol cultivé est variable dans le temps, hein, entre le temps du semis. Là, on a l'exemple d'un blé qu'on va semer en plutôt octobre-novembre, jusqu'au mois de mars, où il va être totalement couvrant. Eh bien, on a toute une période où le sol est dit à nu, et donc il n'est pas protégé de l'agressivité des pluies, de l'érosivité des pluies. Sauf que pas de chance, hein, sous nos latitudes, c'est à cette période-là qu'on enregistre les plus forts cumuls de pluie. Donc, on a tendance à parler souvent de compétition entre la formation de cette croûte de battance que j'évoquais précédemment et puis la pousse des végétaux. Et c'est ça qui va conditionner la mise en place d'un excès hydrique à la surface du sol. Il y a des années où il a plu tellement que la croûte sédimentaire s'est mise en place avant que les végétaux aient pu sortir. Donc là, on a des parcelles qui sont très sensibles et qui vont émettre du ruissellement. Et puis à l'inverse, des fois, les végétaux ont eu le temps parce qu'on a eu un petit peu moins de pluie, ont eu le temps de sortir et de venir protéger les sols. Autre facteur d'influence sur ces processus-là, ça va être les pratiques agricoles. Et je vais aller très vite, hein, le sens du travail du sol, le tassement du sol, l'affinage du sol, etc. Tout cela va avoir des impacts. Et je prendrai un exemple, c'est la photographie de gauche. On est sur un chantier de récolte du maïs. On estime qu'au cours d'une culture de maïs, 80% de la surface ou 80% de la parcelle va être compactée par le passage d'un engin agricole, que ce soit du semis jusqu'à la récolte, avec toutes les rotations des différents engins agricoles qui sont utilisés. Et enfin, le quatrième facteur, c'est la topographie, puisqu'une fois qu'on a un excès hydrique à la surface du sol, pour qu'il y ait ruissellement érosif, il faut que cet excès hydrique circule. Et ça, c'est la pente qui va mettre en circulation cet excès hydrique avec deux types de ruissellement. Un ruissellement diffus, pas très agressif, tel qu'on peut le voir sur la photographie de gauche. Et au gré de la topographie, alors parfois des éléments anthropiques, tels qu'une trace d'un engin agricole, enfin un passage d'une roue, va favoriser la concentration de ces écoulements. Et dès lors que le ruissellement est concentré, ses capacités à éroder des particules sédimentaires à la surface des sols est beaucoup plus importante. Alors, cet écoulement de surface à la surface des sols, au sein des bassins versants, il s'appréhende de manière globalement assez facile sur des espaces d'open field qui sont caractérisés par une uniformité de paysage, caractérisés par des grandes parcelles, quelques chemins agricoles qui permettent d'y accéder, un habitat groupé, donc un paysage uniforme, et c'est principalement la topographie et puis les sens des travaux agricoles qui vont guider ces écoulements de surface. Ce qui, moi, m'intéressait davantage, c'était de savoir ce qui se passait au sein de paysages bocagers. Qui dit paysage bocager, je vais décrire ça très rapidement, même si c'est connu de tous, mais avec le regard de l'hydrologue. Ces paysages bocagers, ils s'apparentent comme des espaces segmentés liés à la diversité des objets du paysage. Puisque au sein d'un paysage bocager, on a des surfaces enherbées, d'accord ? Donc a priori, des surfaces sur lesquelles les processus de ruissellement sont inexistants, ou alors il faudrait un phénomène météorologique assez important, mais globalement, le couvert végétal permanent le protège de tout processus de ruissellement. Alors, ces parcelles de prairies ne sont pas uniques dans les paysages de bocage. On a aussi un nombre assez important de surfaces cultivées qui, elles, vont être sensibles au processus d'érosion hydrique, tel que je viens de le présenter juste avant. Mais un paysage de bocage, c'est aussi des réseaux de haies. Ce qui va être intéressant et important dans ces réseaux de haies, ça va être de regarder leur localisation, leur structuration, leur organisation au sein de ces paysages, savoir s'ils sont parallèles, si ces réseaux sont parallèles ou perpendiculaires à la pente, s'ils sont connectés entre eux. Même questionnement pour le réseau routier, beaucoup plus dense que dans des paysages caractéristiques de l'open field. On va s'intéresser là à ces réseaux en fonction de leur nature. Est-ce que ce sont plutôt des chemins en terre qui vont être plus qui vont permettre d'infiltrer plus facilement que des routes secondaires, mais en bitume et donc totalement hermétiques. On regarde également leur orientation, comme les haies, et puis leur position, savoir si la route est surélevée par rapport à la pente, si elle est en creux ou si elle est totalement insérée dans le versant. Existe aussi dans ces paysages-là un certain nombre de réseaux de fossés. Alors, on en trouve davantage dans des sols argileux qui ont tendance à conserver les eaux, et donc on a créé ces fossés pour drainer ces espaces-là et les rendre opérationnels pour la culture. Et un paysage. Alors, sur ces réseaux, bien souvent, on va trouver une combinaison de réseaux, à savoir qu'on trouve rarement une haie. Alors, et d'ailleurs, c'est un abus de langage, je parle souvent de haies, mais je fais référence aux haies sur talus. Il existe des haies au sol, mais moi, celles qui m'intéressent, ce sont des haies sur talus. C'est plutôt le talus même qui m'intéresse, puisque c'est lui qui a un impact signifiant sur les écoulements de surface. Toujours est-il qu'on va trouver une combinaison, un assemblage de tout un tas d'entités. Alors parfois, on va trouver une haie associée à un réseau de fossés. Parfois, ça va être des logiques plus complexes avec un chemin agricole, une haie, un fossé associé. Donc tout cela complexifie le regard et les approches qu'on peut porter sur ces paysages quand on s'intéresse au processus de ruissellement érosif et de transfert hydrosédimentaire. Autre type d'entité ou objet du paysage qui n'est pas négligeable, c'est l'entrée de champ. Et une entrée de champ mal positionnée peut annihiler le rôle bénéfique d'une haie. Si vous avez une haie qui est située en bas de pente, donc qui va a priori bien protéger et limiter les exportations de sédiments depuis la parcelle agricole jusqu'au cours d'eau, eh bien cette haie, si elle est percée entre guillemets par une entrée de champ, eh bien ça va annuler totalement ses effets bénéfiques, comme le peuvent le montrer ces quelques photographies. Et ça, il y a un travail très intéressant et très important à faire auprès des agriculteurs pour leur dire, essayez de mettre vos entrées de champ à des endroits moins stratégiques. J'y reviendrai tout à l'heure. au rôle un petit peu similaire, ce sont les trouées dans les talus. Ça, ce sont les agriculteurs qui, bien souvent, ont percé ces talus parce que, eh bien, la présence du talus en bas de la parcelle empêchait les eaux de partir de la parcelle et recouvrait totalement celle-ci. L'eau perdait de l'énergie, donc elle était incapable de transporter les sédiments qu'elle avait érodés un petit peu plus en amont, et donc elle est déposée en amont de ces talus et ça recouvrait les cultures, et donc ça entraînait des pertes économiques. Donc souvent, les agriculteurs, là où ça coince, entre guillemets, ils ont tendance à ouvrir de façon à faire sortir l'eau. Et ça, c'est très compliqué, un petit peu comme les entrées de champs, parce qu'il n'y a aucune base de données qui existe pour référencer tout ça. Donc on est obligé d'avoir une approche naturaliste de terrain pour aller récupérer toutes ces données. J'en reparlerai ça aussi tout à l'heure. Autre type d'entité, là cette fois-ci, enfin là encore une entité dite ponctuelle, hein, je suis parti d'entités linéaires, enfin surfaciques, linéaires, et là on est dans les entités ponctuelles, ce sont les réseaux de mares qui, elles, vont jouer le rôle de zones tampons, elles vont être capables de ralentir les processus d'écoulement de surface entre les parcelles agricoles et le cours d'eau, favoriser la sédimentation des particules érodées. Mais pas toujours, on verra ça tout à l'heure. Et puis, il y a d'autres types d'entités. J'aurais pu parler des surfaces boisées. Il y a bien évidemment des espaces bâtis, et notamment les cours des exploitations agricoles, qui sont autant de milieux qui vont favoriser le ruissellement direct des eaux de pluie. Donc, au final, ces paysages bocagers forment une mosaïque complexe au sein de laquelle les processus spatiaux de ruissellement sont difficiles à appréhender. Et moi, c'est ce qui m'intéressait en Master 2. Et je me suis dit, c'est là-dessus que je veux travailler. Notamment parce qu'il y a des enjeux, et je vais aller là aussi très vite, qui sont très importants et multiscalaires, des enjeux liés à la dégradation des sols, hein, comme je l'expliquais tout à l'heure, ce processus d'érosion qui vont pouvoir former des rigoles ou des ravines qui vont participer à la diminution de la fertilité, hein. Il faut savoir qu'on estime qu'il faut 10 ans pour que se forme 1 mm de sol, et en quelques heures au cours d'un épisode pluvieux, eh bien, vous pouvez avoir un sol entaillé sur plusieurs centimètres. Et donc, on perd un capital sol qui aura mis beaucoup de temps à se mettre en place. Une fois que ces sédiments quittent la parcelle, ils peuvent rejoindre le cours d'eau et contribuer à altérer la ressource aquatique par le fait de l'augmentation de la turbidité qui va causer des problèmes, notamment pour les poissons. Entraîner de la pollution parce que tous les intrants mis par les agriculteurs vont se fixer sur ces sédiments, et un sédiment, j'ai tendance à dire qu'on parle d'une pollution locale, c'est-à-dire que des intrants phytosanitaires qui vont être mis par l'agriculteur sur une parcelle, eh bien, ils vont se retrouver à l'échelle de l'hydrosystème dans le cours d'eau. Et puis des phénomènes dont on parle le plus souvent, que vont être les crues turbides, les inondations à l'exutoire de ces bassins versants. Et puis en fonction de ces impacts, je parlais d'impacts multiscalaires, eh bien vous avez aussi une résilience différente, hein, puisque sur une parcelle, les conséquences, globalement, on peut, comment dire, au cours d'une année, s'en affranchir. Enfin, la destruction d'un semis, ben voilà, ça va affecter la récolte de l'agriculteur sur un an, et puis l'année suivante, il repart sur des bases. Sur de nouvelles bases. Par contre, dès qu'on arrive à l'échelle du bassin versant, eh bien, les phénomènes de crues turbides, de coulées de boue peuvent impacter durablement les sociétés sur plusieurs années, voire une décennie. Et puis, dès lors qu'on parle de pollution diffuse, de perte en terre, de diminution de la fertilité, et là, bien évidemment, au regard de ce que je vous ai dit auparavant, eh bien, ce sont des enjeux extrêmement prégnants. Et tout cela s'insérait également dans des politiques et dans un contexte législatif qui se resserre autour de ces questions environnementales, et on ne peut que s'en féliciter, avec notamment depuis le 1er janvier 2018 la mise en place de la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, sous le terme, l'acronyme de GEMAPI, vous avez peut-être déjà entendu parler, hein, donc la compétence affectée aux communes et à leurs groupements, qui va avoir en charge la gestion des bassins versants et notamment l'entretien et l'aménagement des cours d'eau et de tous les réseaux d'eau au sein de leurs communes. Alors, au regard de tous ces enjeux et de tout ce que je vous ai évoqué auparavant, ma question de recherche de thèse de doctorat était la suivante. La problématique, c'était d'aller vers une meilleure compréhension des dynamiques spatiales des transferts hydro-sédimentaires Donc transfert hydrosédimentaire, hein, c'est le ruissellement dès qu'il part de la parcelle agricole pour aller jusqu'au cours d'eau, hein, c'est transfert sédimentaire, transfert d'eau et de sédiments entre les espaces émetteurs de sédiments et le réceptacle que va être le cours d'eau. Donc l'objectif, c'est d'avoir une meilleure compréhension de ces dynamiques spatiales, de ces transferts et de leur complexité induite par la structure paysagère. Donc vraiment m'interroger sur ces relations entre un processus physique, le ruissellement érosif, et les paysages. Avec deux questions qui ont guidé mes travaux. Comment la structure paysagère influence-t-elle le parcours de l'eau et du sédiment à la surface du sol? Et comment la modélisation peut-elle rendre compte de cette complexité induite par la structure paysagère sur ces processus? Pour cela, j'ai mis en place une double approche méthodologique basée à la fois sur de la géomorphologie et sur de la modélisation. L'objectif de l'approche géomorphologique, c'était de pouvoir quantifier ces transferts d'eau et de sédiments, savoir au cours d'un épisode de ruissellement quelles sont les quantités de matière qui sont réellement exportées et véhiculées au sein d'un bassin versant, essayer de statuer sur le rôle des entités paysagères, et puis développer en parallèle, alors c'est pour ça que je mets aller-retour, hein, c'est vraiment que ça a été une construction, les deux approches se sont nourries l'une de l'autre, j'ai pas fait une thèse, ça dure 3 ans, bon j'en ai fait 4, j'ai pas fait 2 ans devant un ordinateur et puis 2 ans sur le terrain, non c'est vraiment deux approches qui se sont nourries l'une de l'autre, une approche donc modélisatrice avec l'objectif de modéliser ces processus via des outils de simulation pour essayer de comprendre ce rapport processus-paysage, essayer de trouver des indices simples et transposables. C'est ce que je vais vous présenter dans un instant. Donc le deuxième temps que je voulais évoquer avec vous, c'était justement quels sont les apports de ces deux approches. Je me suis basé sur un concept emprunté à l'analyse spatiale ou aux écologues, qui est le concept de connectivité, concept qui était né en écologie du paysage pour caractériser les interactions entre les espèces et la structure des paysages afin de déterminer le mouvement des individus à travers les habitats qu'offraient ces paysages. C'est un concept qui est né dans les années 60 et puis qui a été approprié par des disciplines comme l'hydrologie et la géomorphologie plus récemment. Et c'est bien développé ces 10 dernières années en géomorphologie et ce concept est utilisé pour comprendre les liens qui vont exister entre les zones de production sédimentaire et leur localisation dans l'espace avec le comportement global du bassin qui résulte de l'organisation de ces liens. Alors, c'est un petit peu barbare, mais vous allez voir, c'est très très facile à comprendre. On va distinguer deux types de connectivité. Une connectivité structurelle, c'est-à-dire comment l'agencement des entités du paysage dans l'espace permet potentiellement la connexion de sédiments donc produits, enfin émis depuis des parcelles agricoles jusqu'au cours d'eau. Donc là, on va prospecter sur un territoire délimité par un bassin versant, qui est notre entité de référence en hydrologie, pour essayer d'identifier quelles sont les parcelles qui sont susceptibles de se connecter au cours d'eau. On aura ainsi défini, quand on a toutes ces parcelles-là, la connectivité structurelle. Et là, on est obligé de passer du temps sous la pluie, et ça, j'en ai passé beaucoup au cours de ma thèse, pour essayer de définir, OK, on connaît la connectivité structurelle, mais quelle est la réalité de ces connectivités? Et là, on passe à une connectivité fonctionnelle, donc celle qui existe vraiment, avec parfois, et même souvent, de la connectivité assez faible, un petit filet d'eau qui va couler depuis une parcelle agricole pris en charge par un fossé et rejoindre le cours d'eau. Donc ça, c'est quelque chose qu'on rencontre fréquemment, mais de magnitude assez faible. Et à l'inverse, on peut avoir des épisodes plus rares, mais de magnitude très importante. Et là, les quantités de matière en suspension qui peuvent être véhiculées au sein d'un espace sont très importantes. Alors, pour schématiser et pour faire un petit peu une synthèse de ce que je viens de dire, quand on s'intéresse à la connectivité hydrosédimentaire de ces parcelles agricoles, on va distinguer 3 types d'espaces. Des espaces qui sont déconnectés du cours d'eau, donc c'est le cas ici de la parcelle en surbrillance grise, et vous avez la présence de haies qui vont déconnecter. Vous avez un caisson hydraulique ici qui est en place. Et donc, quand bien même on aurait des processus de ruissellement sur cette parcelle-là, la haie située à l'aval va déconnecter hydrologiquement cette parcelle du cours d'eau. À l'inverse, vous avez des parcelles qui sont directement connectées au cours d'eau, puisque situées à proximité de celui-ci, là, les ruissellements vont directement dans le cours d'eau. Et le troisième, le plus complexe, c'est celui que je vous évoque depuis tout à l'heure. On le nomme comme étant une parcelle, on la nomme comme étant une parcelle indirectement connectée, c'est-à-dire la parcelle produit du ruissellement. Ce ruissellement, il va s'exporter de la parcelle. Alors, soit il profite d'une trouée dans un talus, soit d'une entrée de champ. Il va se retrouver sur un petit chemin agricole. Ce chemin agricole va transférer vers un fossé, le fossé vers le cours d'eau. Et donc, vous avez un relais des processus dans le temps et dans l'espace. Alors, appréhender la connectivité, j'avais un terrain d'étude qui était situé à proximité de l'université de Caen, sur la commune de Lingève, donc à côté de Tilly-sur-Seule, sur le bassin versant de la Seule. Cette proximité me permettait d'être très réactif en cas d'événements pluvieux. Je pouvais, voilà, je suivais les radars, puisque j'ai fait un petit peu toute ma thèse, et dès qu'ils annonçaient beaucoup de pluie, je pouvais me rendre en 20 minutes et j'étais opérationnel pour aller voir ce qui se passait sur le terrain. Alors, c'est un bassin versant qui fait 17,6 km², qui est intéressant parce qu'il présente une dichotomie paysagère entre une partie nord plutôt caractérisée par des grandes parcelles et l'absence de réseaux linéaires, et notamment lié au fait qu'on est en présence de sols limoneux sur ces parties amont, des limons qui se sont déposés au quaternaire. Et puis, dans la partie sud du bassin versant, on est sur des argiles à silex, plus difficiles à cultiver. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un certain nombre de réseaux de fossés pour drainer ces parcelles et les rendre facilement cultivables. Donc on va se retrouver avec des parcelles plus petites, des réseaux de fossés beaucoup plus importants, ainsi qu'un nombre de haies bien plus important, donc un paysage plutôt bocager. Donc la première approche, ça a été d'essayer d'estimer les connectivités. Qu'en était-il des connectivités sur ce bassin versant-là ? Donc je vais passer sur les 70% du bassin qui sont totalement déconnectés, soit parce que ce sont des prairies qui n'émettent pas de ruissellement, ou soit parce que les haies vont déconnecter ces parcelles du cours d'eau. Ce que l'on s'aperçoit, c'est qu'on a donc 7% du territoire qui est directement connecté au cours d'eau. Donc là, dès qu'il y a ruissellement, ces ruissellements partent dans le cours d'eau. Et on a surtout presque 20% de ces espaces qui sont indirectement connectés. Et ce qui est assez frappant, c'est que bien souvent, ce sont des surfaces qui sont situées très loin du cours d'eau. C'est-à-dire que vous y allez en plein été, vous avez bien du mal à croire que ruissellement, il peut y avoir sur cette parcelle et que ce ruissellement peut aller jusqu'au cours d'eau. Alors une fois cet inventaire fait, on voulait aller un petit peu plus loin pour essayer de quantifier les processus. Alors, c'est ce que je racontais tout à l'heure, j'ai suivi différents épisodes pluvieux, il y en a 7 qu'on a pu suivre assez finement, c'est-à-dire qu'il m'a fallu demander à des collègues doctorants de venir avec moi pour faire des prélèvements. On avait identifié les différents points stratégiques au sein de ce bassin versant sur lesquels on pouvait avoir une quantification la plus fine possible de ces transferts d'eau et du sédiment. Alors, je vous présente deux exemples. 14 décembre 2012, une averse de pluie extrêmement modeste, 10 mm de pluie, on enregistre 17 tonnes, presque 18 tonnes de sédiments qui ont été exportés de ce bassin versant, qui, je le rappelle, en fait 17,8. Donc 10 mm de pluie, 17 tonnes de sédiments exportés, et une contribution des têtes de bassin versant à hauteur de entre 15 et 20%. Donc les têtes de bassin versant, c'est les zones d'initiation du réseau hydrographique. Et donc c'est là qu'on va trouver un certain nombre d'entités du paysage, notamment des réseaux de fossés qui vont aller chercher, entre guillemets, enfin on a tendance à dire ça, chercher le sédiment pour l'emmener jusque dans le cours d'eau. Deuxième exemple, quelques mois plus tard, le 8 mars 2013, 21 mm de pluie, 54 tonnes de sédiments exportés de ce bassin versant de 17 km². Donc au regard de tous les enjeux que je vous ai présentés tout à l'heure, c'est quelque chose d'assez inquiétant, je dirais. Et là, la contribution des têtes de bassin versant est estimée à 49%. Donc on estime que sur ces 4 têtes de bassin versant qui ont été bien suivies, eh bien, elles ont contribué à hauteur de... Enfin, la moitié des sédiments exportés du bassin versant provenaient de ces surfaces-là. Alors, que montrent ces mesures ? Eh bien, tout d'abord, une variabilité temporelle. Je vais assez vite, mais simplement pour vous dire que une crue a un rôle primordial au sein d'une année, c'est la première crue de l'année hydrologique. Donc, sous nos latitudes, l'année hydrologique, elle commence au 1er octobre pour se terminer au 31 septembre. Et la première crue hydrologique qui va avoir lieu au mois d'octobre, novembre, va être extrêmement importante parce qu'elle va vidanger le bassin versant de tous les sédiments qui se seront accumulés au cours de la période estivale. Ils vont s'être accumulés de deux façons, soit par le fait d'un orage très localisé qui va engendrer du ruissellement sur une parcelle, mais il n'y a pas assez d'eau qui est tombée, ce ruissellement il va aller mourir, entre guillemets, sédimenter dans un fossé un petit peu plus à l'aval, mais il ne va pas sortir du bassin versant. Ou alors, des sédiments qui vont être mis à disponibilité par le piétinement bovin, et les agriculteurs ont tendance à laisser leur bovin dans les têtes de bassin versant. Alors, tête de bassin versant, une fois de plus, hein, on a un talweg qui est peu marqué, on est souvent dans des prairies, et donc les bovins vont venir piétiner et éroder en piétinant les berges de ces micro-talwegs. Les sédiments vont être arrachés de ces berges et donc être disponibles. Et première crue hydrologique, elle va venir chercher dans ses compartiments tous les sédiments et elle va les exporter. Donc c'est souvent à cette période de l'année qu'on enregistre les plus forts taux d'export de sédiments. Rôle intéressant aussi des petites crues tout au cours de l'année hydrologique, parce que petit à petit, elles vont mettre en connectivité les différents compartiments du bassin. Du bassin versant. Pardon. Et troisième chose que montrent ces mesures, c'est le rôle des épisodes significatifs, c'est-à-dire que globalement, ce sont quelques épisodes au cours d'une année qui vont participer à exporter la majorité des sédiments. Vous voyez ici que 4 épisodes de pluie en 2009-2010 ont permis d'exporter à E4 la moitié des sédiments exportés du bassin versant au cours d'une année. Alors, là, je parlais de variabilité temporelle. Ces résultats montrent aussi une variabilité spatiale. Et moi, c'est vraiment ça qui m'intéressait. À savoir qu'on n'a pas une contribution homogène de toutes les parcelles du bassin versant, mais ce sont quelques entités qui présentent des caractéristiques pédologiques d'occupation du sol bien particulières qui vont favoriser et donc permettre du ruissellement. Et ce ruissellement, il va pouvoir rejoindre le cours d'eau du fait de configurations d'objets spatiaux particulières qui permettent une prise en charge très rapide des sédiments et de les exporter jusqu'au cours d'eau. Alors ça, c'est l'exemple que je vous propose ici. Hein. Vous voyez qu'on estime sur cette tête de bassin versant qu'on a presque 2 tonnes de sédiments qui ont été exportés. Et dans les faits, la contribution vient principalement de la parcelle qui est située au centre du bassin versant. Et puis, dernier exemple sur les effets de combinaison dans l'espace de ces entités du paysage. Vous avez ici, vous suivez sur le petit 1, vous avez un fossé qui va drainer des écoulements venus de surfaces cultivées plus en amont. Ces écoulements, ils vont se stocker dans une mare, sauf que la mare, au bout d'un moment, elle en a marre. Pardon pour le jeu de mots, elle va déborder et les écoulements vont venir raviner la parcelle que vous voyez ici en numéro 2 et donc créer de nouveaux processus d'érosion de sédiments qui vont s'exporter mais qui ne vont pas aller très loin puisque en numéro 3, vous avez une haie qui va favoriser la sédimentation de ces sédiments exportés. Donc vous voyez, il y a des effets de relais, de processus dans le temps et dans l'espace qui sont difficiles à caractériser. Et j'ai voulu développer un outil de modélisation pour essayer de comprendre et de donner des indices discriminants des paysages. Alors, je fais très rapidement, je rappelle ce qu'est un modèle. C'est une représentation simplifiée de la réalité. On sert des modèles pour essayer de comprendre les variables qui vont faire fonctionner un système, pour essayer de prédire en apprenant du passé pour anticiper le futur, et puis pour explorer, donc en formulant différents types d'hypothèses pour essayer de voir comment réagit le système. Et moi, tel que je l'ai conçu ce modèle, c'était vraiment avec l'idée de servir de support de communication, notamment auprès des élus et des aménageurs. Alors, le modèle LASCAR, pour Landscape Structure and Runoff, je l'ai construit à partir d'une plateforme de système multi-agent. Alors, je fais très vite, Philippe. Système multi-agent, pour les plus jeunes, c'est un petit peu le principe des Sims, c'est-à-dire que vous avez un ensemble d'agents autonomes, indépendants, qui vont être en interaction au sein d'un environnement. Ils vont pouvoir réagir, donc être en interaction entre eux et aussi avec l'environnement. Vous allez me dire là, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Dans le cadre de mes approches, je discrétise des écoulements en boules d'eau. Chaque boule d'eau est un agent à part entière, capable d'interagir avec son environnement et avec ses camarades boules d'eau qui vont circuler avec lui. Et elles vont circuler dans un environnement de simulation qui est délimité par les limites du bassin versant et ces gouttes d'eau vont s'écouler en fonction des pentes qui seront données dans le modèle par un modèle numérique de terrain. Et ces boules d'eau vont interagir avec l'environnement, comme je le disais. Donc, on va pouvoir générer des écoulements sans contrainte. Donc là, je fais des simulations uniquement topographiques. Je considère qu'il n'y a pas de paysage et que les écoulements se déplacent uniquement en fonction de la gravité. Et puis ensuite, je peux introduire petit à petit eh bien, différents objets du paysage. Alors, à commencer par les haies. Mes agents gouttes d'eau vont comprendre qu'une haie, eh bien, on va devoir la prendre en compte dans son déplacement et éventuellement l'éviter. Et puis, à l'inverse, des réseaux de fossés qui vont favoriser la concentration des écoulements. Alors, cette capacité qu'offre la simulation de pouvoir... mettre en place des simulations sur des paysages virtuels, elle est extrêmement intéressante et m'a permis de sortir cette première cartographie où je vais superposer deux sorties du modèle. Dans un premier temps, j'ai réalisé des simulations sans aménagement anthropique, c'est-à-dire que je fais circuler mes gouttes sur un paysage totalement virtuel, uniquement topographique. Elles vont suivre, comme je le disais précédemment, la topographie pour rejoindre le cours d'eau. Elles vont calculer la distance qui les sépare de leur zone d'initiation jusqu'au cours d'eau. Et puis, dans un second temps, je vais introduire mes réseaux linéaires et puis je vais essayer de voir quelle est la différence liée à la présence d'entités linéaires sur la distance au cours d'eau. Ce que l'on s'aperçoit, c'est que on a des espaces pour lesquels la présence d'entités paysagères haies ou fossées va diminuer la distance au cours d'eau, alors que pour d'autres types d'espaces, cette distance va augmenter. Alors, je le schématise ici. Vous avez pour cette surface ici caractérisée en bleu, eh bien, une distance au cours d'eau qui diminue de fait de la présence d'entités linéaires telles que des haies. En l'absence de haies, eh bien, les écoulements suivraient la topographie selon l'axe défini ici matérialisé par la flèche noire. La présence de haies dans le paysage eh bien, va raccourcir la distance au cours d'eau. Et c'est des choses intéressantes à montrer, puisque eh bien, potentiellement les sédiments contaminés, du fait de l'agencement des réseaux entre la surface émettrice et le cours d'eau, eh bien, ils vont potentiellement être plus rapidement être connectés au cours d'eau. Et puis, vous avez le schéma inverse, où des espaces qui vont au contraire voir leur distance au cours d'eau augmenter parce que eh bien, les réseaux de fossés vont permettre aux écoulements de mettre plus de temps à rejoindre le cours d'eau. Voilà, je vais un petit peu vite, mais je vois que je prends déjà beaucoup de temps. Tout ça pour dire que le modèle ici est intéressant parce qu'il va nous montrer quelque chose d'assez fondamental, c'est que plus que la densité de réseaux linéaires au sein d'un espace, c'est bien leur organisation et leur structuration dans l'espace qui compte. C'est-à-dire qu'on a souvent pris comme seul indice vertueux la densité de haies dans un espace pour dire bah là on a quelque chose, enfin on a un territoire qui a priori bien protégé des altérations pédologiques. Dans les faits, vous pouvez avoir une densité très importante, mais si les haies sont mal organisées, mal structurées, eh bien, vous avez une connectivité très importante. Alors, le modèle me permet de jouer donc, sur les configurations paysagères, comme je le disais tout à l'heure. Donc, je peux mettre différents types de simulations. Là, une première simulation sans entité du paysage, comme je viens de le raconter. Donc, toutes les surfaces se connectent au cours d'eau. Quand je rajoute les cours d'eau, on s'aperçoit que les réseaux de haies, on s'aperçoit que la connectivité, elle chute, elle n'est que de 85%, c'est-à-dire qu'il y a 15% des espaces de mon bassin versant qui sont déconnectés du cours d'eau. En rajoutant le fait que seules les surfaces, parce que dans la partie précédente, quelle que soit la nature de l'occupation du sol, tout ruisselait. Quand je restreins uniquement aux parcelles cultivées, on s'aperçoit que cette connectivité, elle chute à 45%. Et puis, en mettant un seuil de rétention, donc un seuil d'infiltration joué par les prairies, eh bien cette connectivité, elle va chuter à 30%. On l'avait observé à 27% sur le terrain. Donc, on a un modèle qui reproduit plutôt fidèlement les processus de terrain. Donc, le modèle est intéressant parce qu'il nous permet de déconstruire cette connectivité et de commencer à bien comprendre d'appréhender cette complexité que j'évoquais au départ. Et là, je vais aller très vite, puisque je vois que l'heure tourne. Le modèle nous permet de faire des diagnostics de sensibilité. Donc, vous pouvez faire des fiches d'identité assez simples en identifiant les surfaces qui vont déconnecter, des surfaces qui vont produire du ruissellement, etc. C'est un modèle que j'essaie d'exporter. Alors, il n'est pas encore... Les aménageurs, en tout cas les gestionnaires, sont intéressés, mais on n'a pas pu encore totalement le développer. Donc, c'est uniquement des travaux de master que je présente ici qui ont testé ça, là, par exemple, en Bretagne. Et puis la dernière carte que je voulais montrer sur ces questions-là, c'est que en s'intéressant et en réagrégeant à l'échelle d'une parcelle agricole, on peut affiner cette histoire de connectivité. Alors, c'est un petit peu pas facile à expliquer. Je vais considérer pour une parcelle agricole que, par exemple, elle est capable... Enfin, il y a 100, mes petits agents, il y a 100 agents gouttes qui sont produits par cette surface-là. Et je vais regarder quel est le nombre d'agents gouttes de cette parcelle qui est capable d'aller jusqu'au cours d'eau. Si toutes mes gouttes vont jusqu'au cours d'eau, eh bien, je vais considérer que la connectivité est facile et qu'il y a peu d'obstacles entre mes parcelles et mon cours d'eau. Et donc, on a une parcelle qui est extrêmement sensible. En revanche, si j'ai que la moitié de mes écoulements qui vont rejoindre le cours d'eau, parce que l'autre moitié, elle va servir à infiltrer, elle va s'infiltrer dans les prairies à l'aval, et une fois que ces prairies vont être totalement saturées, eh bien, elles vont permettre aux autres agents de se connecter au cours d'eau, eh bien, vous pouvez, comme ça, discriminer au sein d'un espace les différentes la connectivité au cours d'eau. Désolé, je vais un petit peu vite. Dernière chose que je voulais montrer, là j'ai content pour le coup de montrer ça dans le cadre du pôle rural, c'est que je me suis resservi donc, de ce modèle que j'avais créé pour essayer deux choses. La première, dans le cadre de ma thèse, c'était d'essayer de comprendre, de mettre en évidence les conséquences de l'évolution des paysages agricoles depuis le milieu du XXe siècle sur cette connectivité hydrosédimentaire. Avec une méthodologie assez simple, reconstruire des paysages en me servant des images aériennes de l'IGN, les reproduire et donc les digitaliser sous des systèmes d'information géographique, et puis ces données-là, les incorporer dans mon modèle, et puis faire des simulations. Et calculer l'évolution de la connectivité. Alors, sur le bassin versant du Lingève que je vous ai présenté tout à l'heure, j'ai donc reconstruit quatre instants du paysage, 1947. Pourquoi 47? Parce que c'est la première photo aérienne disponible sur le site de l'IGN. 1967, 1988 et 2010, donc quatre instants du paysage. Qu'est-ce que montrent ces reconstitutions paysagères? Eh bien, c'est une diminution des surfaces en prairie. En 1947, on estimait que 60% du territoire était sous couvert. Sous couvert de prairies, pardon, et on est à 45% aujourd'hui. Dans le même temps, les surfaces cultivées ont largement augmenté, puisqu'on était à peine 20% de surfaces cultivées, on est aujourd'hui à 45%. Les vergers ont totalement disparu. Alors, ces trajectoires du paysage ne sont pas aussi simples, hein, c'est-à-dire que les cultures n'ont pas remplacé les vergers. Dans les faits, les cultures ont remplacé des prairies et les prairies ont remplacé des vergers. Donc il y a des logiques comme ça, on pourrait en parler un petit peu plus longuement, mais je ne vais pas avoir le temps ici. Et puis ce qu'on peut remarquer aussi, c'est la suppression de 62 km de linéaires de haies sur ce petit bassin versant. Alors, quelles conséquences sur la connectivité ? Eh bien, en 1947, donc en faisant tourner des simulations sur les paysages tels qu'ils étaient en 1947, on estime que la connectivité au cours d'eau était de 7,2%. En 1967, 8,5% du territoire est hydrologiquement connecté au cours d'eau. Cette connectivité, elle va augmenter, à 13%, enfin 14% en 1988, pour aujourd'hui atteindre 25%. Donc on passe d'une connectivité de 7% à 25% en 70 ans. Donc la part des surfaces cultivées et connectées au cours d'eau a triplé entre 1947 et 2014. Le modèle met bien en évidence le rôle de la localisation des parcelles dans l'espace et la capacité des réseaux à aller connecter ces surfaces au cours d'eau. Et puis les simulations mettent par ailleurs des effets de seuil qui montrent que les aménagements qui ont été produits jusqu'à en 1988 sur la connectivité hydrosédimentaire, ils n'étaient que très peu impactants. Autrement dit, eh bien, on a valorisé des territoires de manière intelligente puisque la connectivité a que très peu augmenté. Parce qu'on avait laissé des entités clés du paysage, c'est-à-dire des haies qui avaient un rôle indéniable et qui allaient déconnecter des processus. La même chose pour des prairies. Alors que ces dernières années, on a tendance à rogner sur ces entités-là et les conséquences sont dramatiques. Et mettre à découvert plus de 70 ans d'aménagement de ces sociétés, de ces espaces ruraux. Je passe sur la conclusion que j'avais préparée puisque je viens de tout dire. Et pour vous montrer un deuxième travail que je suis en train de mener plutôt en ce moment en parallèle de mes activités d'enseignement, donc on va en dire que j'ai très peu de temps, c'est d'essayer d'aller plus loin. Comme je vous l'ai montré là, je me suis arrêté en 1947 et je trouve intéressant d'essayer d'aller plus loin en me servant des archives cartographiques que l'on peut trouver, notamment aux archives départementales. Alors, initialement, ça avait été lancé parce que j'ai des collègues qui travaillent plutôt sur la sédimentologie et qui vont faire des carottes dans des sols et qui arrivent à reconstituer et à estimer des environnements paysagers. Simplement, ils peuvent savoir s'il y a quelques centaines d'années, on était dans un environnement plutôt uniquement boisé, s'il y avait quel type de culture, etc. Mais replacer précisément ces surfaces au sein d'un territoire était plus compliqué. Donc, j'ai essayé de fouiller pour un territoire donné quelles étaient les données cartographiques disponibles. Alors là encore, je m'en excuse, je vais aller très vite parce que je pense que ce sont des sources que vous connaissez bien. Les cartes de Cassini, alors qui sont pas très intéressantes pour nous pour reconstituer les paysages parce que les données sont, enfin, il y a assez peu de données sur ces questions-là. L'Atlas de Truden entre 1845 et 1880, lui, est bien plus intéressant parce qu'on a la trame parcellaire qui est visible, les réseaux de routes et puis l'occupation des sols puisqu'on peut distinguer les surfaces en prairie des surfaces cultivées. Et cet atlas de Truden, alors, il concerne uniquement, comment dire, cet atlas de Truden visait à cartographier uniquement les routes royales et les paysages qu'il y avait autour. Donc, c'est assez restreint, en fait, autour des réseaux royales et sur le bassin versant du Lingève, par exemple, qui n'est pas traversé par un réseau, une route royale, et bien, je ne peux pas obtenir de données pour reconstruire des paysages plus anciens. Voilà, j'accélère un petit peu, mais pour vous montrer qu'on peut identifier un certain nombre de choses. D'autres sources également, ce sont les plans terriers qui eux aussi sont assez intéressants puisqu'il y a un découpage assez fin de la trame parcellaire agricole, des informations sur les types d'occupation du sol. Là, on peut deviner où sont les vergers, d'où sont les espaces cultivés. Parfois, on peut trouver localiser des réseaux de haies. Vous voyez des traits un petit peu plus épais qui matérialisent eh bien la présence de réseaux de haies. Voilà ici un verger, par exemple. Autre source un petit peu plus récente, ce sont les plans cadastraux, dits cadastres napoléoniens, et j'oublie un S à plan d'ailleurs, au passage, qui eux aussi vont nous donner des informations sur l'occupation, enfin l'activité agricole, enfin les paysages au début du 19e. Et puis des cartes d'état-major qui sont plutôt milieu du 19e siècle, qui elles aussi vont donner des précisions sur les paysages. Alors, encore une fois, je m'excuse, je vais extrêmement vite, hein, mais vous voyez assez aisément qu'on peut identifier où sont situées les prairies, où sont situés les réseaux, etc. Et puis, vous avez d'autres sources qui vont résulter de ce que j'appelais des opportunités historiques. Alors là, c'est le cas du plan de Vossieux qui représente ici où étaient disposées des troupes royales. Alors, je pense que vous êtes plus spécialiste que moi sur ces questions-là, mais toujours est-il qu'en disposant, en montrant où étaient disposées ces troupes, eh ben, ils ont fait une description assez fine du paysage. Et ça, nous, c'est intéressant aussi pour nous, pour essayer de comprendre eh bien, quels étaient les paysages dans des temps plus lointains que ceux que j'en ai pu reconstruire assez finement. Alors, j'ai lancé, je me suis mis en direction d'un projet de situation de Master 2. Ils ont travaillé assez bien pendant 3 semaines à essayer de reconstruire l'occupation du sol entre 1835 et aujourd'hui sur la commune de Noray. Mais je pense qu'en tant que géographe, j'étais un petit peu limité et c'est pour ça que je fais un appel aux historiens. Si l'année prochaine, il y a des co-directions à mettre en place sur des questions comme celle-ci, j'en serais ravi. Alors, ça a peu d'intérêt de reconstituer ici les paysages, simplement vous montrer à quoi on s'est trouvé confronté. Donc refaire les paysages de 2016, assez facile. Les paysages de 1947, très facile également, puisqu'on a les photographies aériennes. Dès qu'on remonte dans le temps, c'est plus compliqué. Ils ont choisi de prendre le cadastre napoléonien qui était présent pour la partie sud de la commune. Donc là, on avait une très belle description de la partie sud de la commune. Par contre, on n'avait pas d'informations pour la partie nord. Et puis, ils ont également retrouvé le plan terrier de 1770, qui, lui, pour le coup, donnait des informations sur la partie nord de la commune, mais aucune information sur la partie sud. Donc, on s'est trouvé avec ces paysages un petit peu à trous, et donc, on s'intéresse, et là je pense qu'il y a quelque chose à mener sur eh bien, essayer de reconstituer ces paysages en s'aidant des données qu'on pourrait obtenir d'autres sources ou des paysages qu'on peut reconstituer en amont un petit peu plus avant ou après. Donc là typiquement le cadastre napoléonien, ils ont essayé de l'enrichir à partir des données de 47, comparé avec ce qui existait déjà en 1970, voir s'il y a des réseaux de haies qui étaient déjà en place et qui ont perduré dans le temps, et ça existe. Et puis se servir d'autres sources de données telles que des plans de route qui sont plus restreints mais qui donnent des informations. Et donc là, on a travaillé aussi sur la forme du parcellaire pour voir s'il y avait des choses à en tirer. Et les premiers résultats montrent qu'à mon sens, je suis trop limité et pour ces questions-là. Et je pense que le travail des historiens serait bénéfique pour ces questions-là. Ça fait déjà longtemps que je parle, je crois. Je fais une très rapide conclusion, mais en gros, je reprends tous les éléments que je viens de dire. Simplement, ce que je tenais donc à évoquer avec vous, c'est l'existence de processus d'érosion actifs au sein même de territoires qui sont souvent considérés comme vertueux. Et je pense aux paysages de bocage qu'on met souvent en avant pour leur capacité à, enfin pour leur aspect vertueux. Les quantités de matière exportée de sédiments peuvent être très importantes et il y a une forte variabilité spatiale et temporelle. Le rôle indéniable de l'organisation spatiale des entités du paysage au sein d'un territoire. Revenir aussi sur le fait que les concepts et les outils de l'analyse spatiale sont tout à fait pertinents et doivent prendre place dans les plans d'aménagement et de gestion de ces espaces agricoles, ce qui est que très peu le cas. Autre conclusion rapide, certains objets du paysage sont des outils d'aménagement précieux, et je pense notamment aux haies, de par leurs caractéristiques multifonctionnelles, puisque, alors moi j'ai un regard uniquement sur leur rôle hydrologique, mais elles ont un rôle aussi de brise-vent, d'effet microclimat, favorisent l'évapotranspiration. Ce sont des corridors écologiques indéniables pour un certain nombre d'espèces animales et d'autres qualités. Et en tout cas, la haie est un outil, à mon avis, très pertinent d'aménagement du territoire. Reconstituer les trajectoires paysagères de ces espaces pour une gestion raisonnée des territoires de demain. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre du passé et reconstruire ces paysages, comprendre les logiques du passé devraient et doivent nous guider vers des gestions meilleures pour demain. Je vous remercie.